France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City Sandin de Housey.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour avec les gardiens de la Révolution ce soir.
We do not see.
On ne voit pas d'officiers en uniforme dans les cabinets ministériels. On ne sait pas que le président est un vétéran des gardiens de la Révolution. Dans les entreprises, on voit des hommes, et parfois des femmes, en costume. Ils ne portent pas l'uniforme des gardiens de la Révolution. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas visibles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le corps islamique des gardiens de la Révolution s'est transformé en un État dans l'État.
Bonsoir Armin Arefi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter pour Le Point, spécialiste de l'Iran et sa région. Vous co-signez avec Julie Lerin un documentaire en deux parties diffusé sur Arte ce soir qui s'appelle « Gardien de la Révolution, maître de l'Iran ». Et l'extrait que nous avons choisi de votre documentaire, précisément, c'est l'un de ceux qui montre à quel point nous sommes dans un état, dans l'état, s'agissant des gardiens de la Révolution. Il est passionnant, votre documentaire, parce qu'il permet à la fois de mieux comprendre jusqu'à quel point ils ont les clés de l'Iran, et peut-être jette aussi un autre regard sur cette fameuse guerre qu'on appelle désormais la guerre des 12 jours qui s'est terminée tout récemment. On va l'expliquer, parler de la progression de leur entrisme au fil des années. Mais cette question quand même, avant de commencer, presque en finissant votre documentaire, je me suis dit, finalement, même si demain le guide suprême tombait, l'édifice iranien ne s'écoulerait pas comme un château de cartes, en tout cas pas aussi simplement. Est-ce que je me trompe ?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on regarde les alternatives au régime des Mollahs, les alternatives armées, on voit avant tout le corps des gardiens de la Révolution islamique, une force de 190 000 personnes qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'ils aient fait, survivront à la République islamique. Aujourd'hui, c'est l'armée, la véritable armée de l'Iran la plus puissante, celle qui a le programme balistique, le programme nucléaire, les renseignements, ce sont les gardiens de la Révolution, les chefs d'entreprise qui ont profité des sanctions internationales pour avoir le monopole de l'économie du pays, ce sont les gardiens de la Révolution, ceux qui vont arrêter des otages, notamment binationaux, notamment français, comme Jacques Paris et Cécile Collère, ce sont les gardiens de la Révolution. Ils sont partout, ils sont incontournables. Ils ont besoin de la façade jusqu'ici des Mollahs, mais ils pourraient très bien s'en passer. C'est véritablement l'État dans l'État.
Alors on va y venir au fur et à mesure. Ils ne sont pas nés de rien, ces gardiens de la Révolution. Je voudrais que vous nous rameniez quand même un tout petit peu, plus de 40 ans en arrière désormais. Leur naissance au départ, est-ce que c'est le symbole de la bascule autoritaire du pays peu de temps après l'arrivée de Khomeini, ou est-ce qu'ils ont été un jour réellement les défenseurs du peuple et donc aimés du peuple, ces gens?
Alors, ça a commencé donc en 1979, avant même que l'ayatollah Khomeini ne quitte la France pour arriver triomphalement en Iran. Il y avait déjà eu des volontaires islamistes qui s'étaient entraînés dans des camps en Syrie et au Liban pour fomenter la guérilla contre le Shah d'Iran. Sauf que le Shah d'Iran a quitté le pays, a été renversé par une révolution avant même que l'ayatollah Khomeini n'ait l'occasion de retourner dans le pays. Au premier jour de la révolution, l'ayatollah Khomeini n'a pas confiance dans l'armée impériale du Shah, qu'il pense complètement corrompu et encore inféodé au souverain déchu, et donc va s'entourer de cette milice, de ces volontaires armés qui vont avoir pour première mission de sauvegarder le régime, le corps des gardiens de la révolution, et non pas les frontières de l'Iran, à la différence de l'armée. Sauf que très vite, ces gardiens de la Révolution vont servir à réprimer toute forme de dissidence intérieure, y compris au sein même de ceux qui avaient fait la Révolution aux côtés des islamistes, à savoir les libéraux, les marxistes.
Parce que la crainte de renversement du régime est arrivée tout de suite. En fait, on a l'impression qu'il s'est assis et il est devenu paranoïaque sur le fait qu'on le renverse à la seconde où il était là.
Il est arrivé tout de suite, d'autant plus qu'il faut rappeler que la Révolution n'était pas une révolution, à mon sens, islamique. C'est une révolution qui est devenue une république islamique, qui a donné la république islamique, mais il y avait des libéraux, des islamo-marxistes, des marxistes, des communistes et d'anciens partisans du Shah. Et donc très rapidement, les gardiens de la Révolution ont vu comme une bénédiction l'invasion du pays par Saddam Hussein, donc l'Irak de Saddam Hussein soutenu à l'époque par l'ensemble de la communauté internationale, notamment l'Occident qui le fournissait en armes. Et c'est là que d'un côté les gardiens de la Révolution vont être envoyés sur le champ de guerre, aux côtés de l'armée régulière. Ils vont également avoir entre leurs mains les fameux Basiji, donc ces centaines de milliers de jeunes miliciens volontaires qu'ils vont former sur le terrain, qui n'hésiteront pas à se sacrifier face aux chars ennemis. Et ils vont en profiter pour réprimer d'autant plus en interne, à l'intérieur du pays, toute forme de dissidence.
Ce qu'on comprend aussi en écoutant votre documentaire, c'est jusqu'à quel point l'obsession nucléaire vient très vite, parce qu'elle vient juste à la sortie de cette guerre Iran-Irak. Effectivement, c'est à ce moment-là que ça commence, la recherche nucléaire.
Oui, effectivement, comme le dit d'ailleurs l'un des hauts gardiens de la Révolution, Hossein Kanani Moradam, qui était donc un haut cadre au moment de la guerre Iran-Irak, l'Iran, à ce moment-là, était seul au monde, n'avait rien. Et donc, c'est à ce moment-là que les gardiens de la Révolution sont chargés, en fait, de tous les réseaux de contrebande qui vont permettre à l'Iran de s'armer, alors que, encore une fois, Saddam Hussein était armé par l'ensemble de l'Occident. Et à la fin de cette guerre, lorsque finalement les frontières, au bout de 8 temps de guerre et d'un million de morts de part et d'autre, enfin, 500 000 de part et d'autre, donc un million de morts au total, la guerre, quand elle va toucher à sa fin, les gardiens de la Révolution vont se servir, en fait, de ce drame national qu'est la guerre Iran-Irak pour établir la doctrine stratégique de l'Iran, à savoir plus jamais sable, ne plus jamais être envahi et repousser l'ennemi américain, israélien, saoudien, loin, loin des frontières iraniennes. Et c'est là que les gardiens de la Révolution vont participer à la formation du Hezbollah, au soutien à des milices chiites contre Saddam Hussein, aux milices yéménites houthis, au régime de Bachar el-Assad. Et donc c'est toute la stratégie iranienne de ces 40 dernières années qui va être mise en place par le biais de ce corps armé, le corps des gardiens de la Révolution.
Au sortir de la guerre Iran-Irak, on est vraiment dans les derniers mois de Khomeini. Va arriver le nouveau guide suprême Khamenei, donc il y a le pouvoir militaire. Il maîtrise les armes, il maîtrise les drones, il maîtrise les missiles balistiques, etc. Ils vont pouvoir faire main basse sur les marchés publics, c'est ce que vous nous racontez. Donc on est dans un pouvoir économique et c'est grâce à Khamenei qu'ils vont pouvoir avoir accès même au pouvoir politique. Et je me demandais au fond s'il faisait peur à Khamenei à l'époque, c'est lui qui se radicalise et qui les utilise, ou si c'est eux qui sont de plus en plus radicalisés et qui utilisent Khamenei pour leur propre pouvoir. Est-ce que c'est les deux, mon capitaine ?
Au sortir de la guerre Iran-Irak, Khamenei, donc le nouveau guide suprême, souhaite au départ que les gardiens de la Révolution soient dissous au sein de l'armée et donc rejoignent l'armée régulière. Ces derniers vont refuser. Ouais. Donc déjà, on voit leur...
Donc c'est eux qui ont l'emprise.
L'essor de leur puissance. En 1997, donc, ils se voient offrir des marchés publics, notamment dans la reconstruction de l'Iran, qui est un pays détruit. En 1997, c'est différent. En 1997, pour la première fois, des élections amènent au pouvoir, avec un vote populaire important, un plébiscite même, un réformateur, par opposition conservateur en Iran. C'est Khatami, Mohammad Khatami. Et c'est là que, voyant lui échapper son pouvoir sans partage, le guide suprême va pousser les gardiens à entrer en politique, mais pour son propre dessein, à savoir pour empêcher toute velléité réformatrice de gagner l'Iran. Et on voit d'ailleurs à cette époque-là que l'un des fondateurs des gardiens de la Révolution que l'on interviewe dans notre documentaire, Mohsen Sazegara, est mis en prison. Il est à l'époque, donc c'était un des fondateurs qui s'est devenu de plus en plus moderne et modéré, qui va créer des journaux et qui va être mis en prison. Et c'est au fil des années, l'arrivée au pouvoir, en tout cas la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, le président ultra-conservateur, en 2005, qui va en fait mettre la dernière pierre au sommet de l'édifice des gardiens de la Révolution, à savoir un accès total à la politique et à l'économie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on est en pleine crise du nucléaire et les gardiens de la Révolution, en ayant ces monopoles étatiques, notamment au niveau de l'économie, il ne faut pas oublier que l'Iran est à la tête de autres sources, que ce soit au niveau du pétrole, les quatrièmes réserves de pétrole mondial ou du gaz, les deuxièmes, et bien tous les marchés publics, en l'absence des Occidentaux, qui vont être frappés par les sanctions, notamment les sanctions extraterritoriales américaines, vont arriver dans l'escarcelle des gardiens de la Révolution. Donc, ils vont profiter des sanctions.
Et c'est ça qui est très clair dans ce que vous nous racontez, parce qu'au fond, plus l'Iran est isolé, plus l'Iran est sanctionné, plus les gardiens s'enrichissent et plus ils ont du pouvoir. Libéraliser le système, au fond, ça les terrorise, parce que ça conduit à une ouverture du pays. Une ouverture du pays, on ne sait pas, ça peut même mener à plus de liberté. Est-ce qu'au fond, quand on y songe avec le recul, on se dit que on s'est presque tiré une balle dans le pied, en fait, en sanctionnant et en sanctionnant plus fort que jamais?
Avec le recul, on peut effectivement se dire qu'on s'est tiré une balle dans le pied. Maintenant, c'est facile de juger de ça à posteriori. Ce qui est intéressant et fascinant de rappeler, c'est qu'en 2015, quand l'accord sur le nucléaire iranien est signé par Barack Obama, les grandes puissances dont les Mollahs et que respecte la République islamique, les seuls à être vent debout contre cet accord, ce sont les gardiens de la Révolution, qui voient justement leur monopole leur échapper avec le retour des entreprises occidentales. C'est Israël et l'Arabie Saoudite qui estiment que cet accord est trop faible. Et en fait, c'est à ce moment-là précis récit que les gardiens de la révolution vont multiplier leurs diatribes contre Israël, écrire mort à Israël sur leurs missiles balistiques et surtout multiplier les arrestations de binationaux pour torpiller toute tentative de rapprochement entre la République islamique, le gouvernement modéré et le reste de la communauté internationale.
Vous parlez beaucoup dans votre documentaire, c'est même le fil rouge en fait de Nazarine Zaghari qui est anglo-iranienne et qui est restée 5 ans emprisonnée. C'est son mari qui s'est battu bec et ongles pour essayer de la faire sortir et on comprend jusqu'à quel point cette femme est à la fois otage parce qu'il faut que les Britanniques donnent de l'argent qui avait été promis, remboursent une dette qui avait été promise effectivement même à l'époque du Shah, mais on comprend surtout que cette femme est otage de cette situation-là. En fait, moins on peut leur parler parce qu'il y a des otages, plus ils sont à l'aise à l'intérieur de leur pays. C'est aussi ça la stratégie de l'otage chez les gardiens de la Révolution.
Oui, effectivement. Nous, ce qu'on a voulu faire justement avec des cas précis, des cas auxquels le public occidental, notamment français, puisse s'identifier, c'est de raconter vraiment les gardiens de la Révolution à hauteur d'homme. Savoir comment... En fait, le spectateur va se mettre le téléspectateur à la place du mari de Nazanine Zadkliff Zarghami, qui ne connaît rien à l'Iran et encore moins aux gardiens de la Révolution, qui va se rendre compte qu'en plein moment de détente avec l'Occident, la République islamique va arrêter sa femme, qui était en voyage en Iran avec sa fille, et c'est là qu'il va se rendre compte, au départ, il ne comprend pas. Il dit, mais je comprends pas, on a un gouvernement modéré, mais qui arrête ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis très rapidement, il se met à comprendre exactement ce qui se joue, comprendre aussi les dettes passées de l'époque du Shah, qui n'ont pas été remboursées par les Occidentaux, qui n'a pas forcément un rôle toujours très, propre dans cette histoire-là. Et donc, essayer de comprendre à travers cette histoire, ces histoires personnelles, de quoi il s'agit exactement, combien cette organisation est surpuissante et joue avec la vie des humains.
L'autre histoire personnelle, et je voudrais juste le citer, c'est Ruhollah Lazan, qui, pauvrette, était un dissident, un vrai, qui avait une vraie chaîne Telegram et qui marchait vraiment très bien. Il a été l'un des facilitateurs d'une des éruptions en Iran, si je puis dire, en 2017. Il a fini par tomber dans un piège et par être assassiné, pendu. En deuxième partie de votre documentaire, Armin Arefi, vous nous parlez effectivement beaucoup plus de la région, donc le Hezbollah, la Syrie, les milices chiites, les Houthis, le Hamas, etc., la mort de Qassem Soleimani. Jusqu'à quel point, et c'est un peu ce que vous dites à la fin d'ailleurs, diriez-vous que le Hamas a cru le 7 octobre, que l'Iran et ses proxys allaient suivre pour détruire Israël? Est-ce que vous pensez que c'était ça que le Hamas avait dans la tête?
Il y a clairement une volonté de Yahya Sinwar d'entraîner ses alliés dans une guerre totale avec Israël. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, les Iraniens, la République islamique d'Iran, dont on connaît les diatribes anti-israéliennes, a voulu se tenir à l'écart. Donc se tenir à l'écart en démentant tout rôle. Et on a quand même dans le documentaire un ancien responsable militaire des Israéliens qui nous dit que d'après leurs informations, l'Iran n'a pas été le donneur d'ordre, s'ils ont donné la confiance au Hamas en les équipant et en leur donnant des financements pendant des années.
Mais c'est exactement ça. Est-ce qu'ils ont perdu, en fait? Tous leurs proxys...
C'est exactement ça. 45 ans de développement des proxys à la veille du 7 octobre.
Ont pris trop de place.
Ont permis à la République islamique d'être vraiment la grande superpuissance régionale jusqu'à ce que ça se retourne contre eux avec un de leurs principaux alliés paramilitaires, le Hamas, qui échappe un peu à leurs ordres et décide de son propre chef d'aller commettre les massacres du 7 octobre. Et depuis cette date-là, c'est intéressant et même passionnant de voir que tous les alliés des gardiens de la Révolution et même les gardiens de la Révolution eux-mêmes ont été sous le feu d'Israël et même du Mossad jusqu'au 13 juin d'ailleurs dernier, en plein Téhéran, où on voit que la principale organisation qui a été visée par l'armée israélienne, c'est avant tout les gardiens de la Révolution qui sont aujourd'hui humiliés, qui sont affaiblis, mais qui ne sont pas à terre.
Voilà, et qui ne sont pas à terre, mais vous le dites, hein, c'est bien par là que commence l'écroulement de cet axe de la résistance qui était celui de l'Iran, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui.
Même si la population, il faut aussi le rappeler, garde une très mauvaise expérience des gardiens de la Révolution, car ce sont aussi les artisans de la répression interne, et surtout en Iran, c'est eux qui ont, étouffé dans le sang la moindre révolte au cours des dernières années.
Et je renvoie les gens qui nous écoutent, Armin Arefi, merci beaucoup à ce documentaire que vous signez donc avec Julie Lerat. Il est en deux parties, gardien de la Révolution, maître de l'Iran, diffusé ce soir sur Arte. Puis si vous le voulez voir, la carte, c'est facile. Il est déjà, je crois, sur la plateforme d'Arte.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La suite, ce soir, ça se passe dans les Balkans. 30 ans après le massacre de Srebrenica, les cicatrices encore ouvertes dans la ville et dans le pays, bien sûr. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
En Espagne, un sportif pro passe à 36 ans de la moto au vélo.
Le Monde à 18h50 et Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. Partout dans le monde, des retours en matière d'écologie. Pourquoi?
Et Caroline Gillet, au pays des 27. Bonsoir Caroline.
Bonsoir. Eh bien moi, en ces temps de canicule, je vous propose de parler avec une fonctionnaire européenne dont le travail est d'imaginer des futurs possible et nous encourager à les imaginer radieux.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini, il passe un peu par Toronto, un peu par le Japon avec Saya Gray. Elle est en playlist sur Inter, ça s'appelle 10 Ways to Lose a Crown. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est dans ce qu'on a longtemps appelé l'ex-Yougoslavie. C'est ce qu'on disait il y a 30 ans, la guerre en ex-Yougoslavie. L'un des pires moments, qualifié de génocide par la justice internationale, ce sont les massacres ordonnés par l'idéologie nationaliste du Serbe. Slobodan Milosevic, la Bosnie-Herzégovine, pays multiculturel, multiconfessionnel, en a été dévasté. Pendant 4 ans, les massacres ont eu lieu sous les yeux d'une communauté internationale déjà divisée. Les plus vieux d'entre nous ont en tête l'impuissance, le cas de conscience des casques bleus. Le nom de Srebrenica est désormais associé au massacre de plus de 8000 hommes. C'était à la mi-juillet 1995 et ce traumatisme, évidemment, il hante toujours la ville et le pays. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Au milieu des collines verdoyantes de la Bosnie orientale, des milliers de stèles blanches s'étalent sur des centaines de mètres. Le mémorial de Potočari apparaît quelques kilomètres avant la petite ville de Srebrenica.
Je suis Fadila Efendic, présidente de l'association des maires de Srebrenica, basée à Srebrenica. J'ai d'abord enterré mon mari ici. On l'a retrouvé dans une fosse commune, mais pas son crâne. On a retrouvé sa tête que 2 ans plus tard, quand une deuxième fosse a été ouverte. De mon fils, je n'ai retrouvé que 2 os des jambes.
En 1992, la Yougoslavie socialiste implose dans des guerres sanglantes. Dans l'est de la Bosnie, pays multiculturel, les forces serbes procèdent à des campagnes de nettoyage ethnique contre les populations musulmanes. Villages brûlés, tortures, viols, les atrocités culmine en juillet 95 à Srebrenica. En quelques jours, plus de 8000 hommes et adolescents sont massacrés par l'armée des Serbes de Bosnie.
Toutes ces années, nous nous sommes battus pour prouver la vérité et obtenir justice par rapport à ce qui nous était réellement arrivé. Nos questions étaient simples. Où sont nos enfants, nos maris, nos frères ? Nous avons cherché à nous renseigner sur chaque nouvelle fosse découverte. Nous avons exigé que les criminels de guerre soient condamnés à la peine qu'ils méritent.
Ce jour-là, Fadila Efendice et d'autres femmes rescapées de la guerre dialoguent avec d'anciens casques bleus néerlandais. Avant de tomber aux mains des Serbes, l'enclave de Srebrenica était en effet une zone de sécurité des Nations Unies, un statut international censé protéger les populations musulmanes réfugiées dans la ville. Mais à cause des divisions des grandes puissances, ces casques bleus ont été incapables d'empêcher le plus important massacre commis sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Un génocide selon la justice internationale. Rolf Humann était l'un de ces soldats de la paix.
À la fin, nous ne pouvions pas empêcher que 8000 hommes, dont certains ont essayé de s'échapper, soient tués et parfois massacrés par les Serbes. Quand je vois les conflits actuels, je ne peux qu'en conclure la même chose que quand nous étions assis ici. Où est le reste du monde? Pourquoi regardons-nous tout ça et pourquoi rien ne se passe?
Dans une Bosnie divisée et traumatisée par la guerre qui a fait plus de 100 000 morts et 2 millions de réfugiés, les massacres à Gaza ou en Ukraine ravivent des plaies toujours à vif. Au début des années 2000, Damir Pestalic a été le premier imam à revenir à Srebrenica. Il a accompagné le retour chez eux des survivants du génocide.
Croyez-moi, ici en Bosnie, personne ne peut regarder ce qu'il se passe là-bas, car tout est pareil, tout. Nous avons des mères qui ont survécu au génocide de Srebrenica. Elles voient à nouveau les mêmes images en Ukraine, à Gaza, et cela réveille des menaces ici en Bosnie. Certains politiciens menacent à nouveau de faire sécession.
La mosquée de Damir Pestalic est située en plein centre de la ville, à quelques pas de l'église orthodoxe. S'il prêche le vivre ensemble et se réjouit que ses enfants aient des amis serbes, il s'inquiète des conséquences des discours négationnistes agités par les nationalistes serbes.
Nous avons un problème car vous avez des enfants qui apprennent dans leur famille que le génocide n'est pas vraiment un crime. Que personne n'a rien fait, ou encore que cela a eu lieu parce qu'il le fallait. Le génocide est nié, les crimes commis sont niés. C'est la situation aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des progrès là-dessus? J'espère qu'il y en aura, mais bon.
Depuis 30 ans et la fin de la guerre imposée par les Américains, la mémoire du génocide de Srebrenica continue de diviser les différents peuples de Bosnie-Herzégovine.
Louis Seyer pour le reportage, merci beaucoup. La suite demain, grâce à vous. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous voici au Chili, Kevin, à 5 mois de l'élection présidentielle.
Et pour laquelle les électeurs de gauche ont fait un choix inédit en désignant pour la première fois une candidate communiste. Jeannette Jara, 51 ans, a remporté la primaire de toute la gauche ce week-end avec plus de 60% des suffrages dès le premier tour. Victoire sans appel. Le candidat du parti de l'actuel président Gabriel Boric a lui obtenu moins de 10% des voix. Jeannette Jara a été ministre du travail de la coalition actuellement au pouvoir, menant deux grandes réformes, la réduction du temps de travail et un système de retraite plus juste. Le choix de la gauche radicale pour affronter l'extrême droite, puisque battu par Boric en 2021, José Antonio Kast, qui revendique l'héritage de la dictature de Pinochet, est de nouveau candidat et il fait la course en tête dans les sondages. En cas de victoire, Jeannette Jara deviendrait la deuxième femme présidente du Chili après Michelle Bachelet.
On adore le petit bruit. Nous sommes au Royaume-Uni où un train va donc s'arrêter de rouler.
Et pas n'importe lequel, celui de la famille royale britannique. Presque tout noir, 9 wagons, dont un bureau personnel pour le souverain et une salle de réception. Des avantages d'un autre temps, d'où la décision de mettre hors service ce train officiellement en 2026 parce qu'il coûte trop cher, alors que le gouvernement britannique affiche sa rigueur budgétaire, même si l'enveloppe allouée à la famille royale pour ses obligations officielles et l'entretien des résidences a été augmenté d'un tiers cette année. Alors ce n'est pas rien, la monarchie jouit d'une rame de train personnel depuis 1842, plus de 180 ans. Mais ce British Royal Train ne circulait plus beaucoup, 2 voyages seulement l'an dernier pour Charles III, mais toujours des frais d'entretien. Un nouveau signe de modernisation de la monarchie selon le trésorier du roi, qui va néanmoins toujours pouvoir compter sur 2 hélicoptères pour se déplacer dans le pays. Ce n'est pas tout à fait le même bilan carbone.
Allez, nous sommes en Espagne avec un changement de braquet, si
oui,
je puis dire.
Une reconversion surprise, celle d'Alex Espargaro, pilote de MotoGP, le championnat du monde de moto. Ce week-end encore, il a participé au Grand Prix des Pays-Bas. Mais la semaine prochaine, il va prendre le départ du Tour d'Autriche, cycliste. À presque 36 ans, il a signé un contrat professionnel avec la Lidl Trek, l'une des équipes de vélo les plus performantes du monde. Le Tour d'Autriche sera sa première course pro, l'occasion de découvrir son vrai niveau. Alors que beaucoup s'interrogent sur le véritable objectif de cette reconversion, soupçonnant Lidl Trek de faire surtout un gros coup de pub, Espargaro s'entraîne depuis 6 mois. Officiellement retraité de la moto, il est toujours pilote d'essai chez Honda, d'où sa participation à un Grand Prix récemment. Pas mal de sportifs ont tenté de changer de discipline avec plus ou moins de réussite en cyclisme. Il y a un exemple de succès, celui de Primoz Roglic, champion du monde junior de saut à ski, devenu lui aussi cycliste, champion olympique du chrono, vainqueur de 5 grands tours. Espargaro a dit « Cette fois j'arrive, mais sans moteur ». Il a plutôt intérêt parce qu'en vélo c'est interdit.
Voilà, comme vous dites, c'est fou ces gens qui ont envie de pédaler par cette chaleur.
En plus,
Kevin, merci beaucoup, vous reviendrez demain. Vous partez avec un remix de Massive Attack signé Nelly Hooper, Unfinished Sympathies, ça date de 2006. Massive Attack remixé par Nelly Hooper, Unfinished Sympathies sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, le monde à 18h50, presque pile, Frédéric Seyss.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Hess. Le 18-20.
Frédéric Noufla, revenu dans le chaudron au Portugal, jamais un mois de juin n'avait été aussi chaud. Record historique de température en juin également dépassé en Angleterre. On l'a appris cet après-midi, on l'a entendu dans le journal. Et pourtant, Frédéric Seyss, partout en Europe, les réglementations qui protègent le climat sont en recul.
C'est le jour J en Suède. Depuis ce matin, la taxe sur les billets d'avion n'existe plus. Elle avait été instaurée il y a 7 ans sous pression des écologistes. La voici rayée d'un trait de plume. Comment mieux illustrer le tournant que nous vivons, ce revirement sur le trafic aérien dans le pays de Greta Thunberg, la Suède qui a même inventé et popularisé un mot pour traduire la honte de prendre l'avion, cela se dit Flugskam, et ce n'est donc visiblement plus à l'ordre du jour.
Et la Suède n'est évidemment pas un cas isolé.
Non, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de recul en France sur l'isolation des logements par exemple, mais en réalité il s'agit d'un mouvement de fond à l'international, il suffit de se pencher sur la vie politique de nos voisins pour le constater. En Italie, Giorgia Meloni renforce les livraisons de gaz en provenance d'Afrique du Nord. L'Autriche tente de détricoter la loi européenne contre la déforestation et ainsi de suite. Partout, les législations pro-climat stagnent quand elles ne s'étiolent pas, ce que les militants écolos appellent un backlash, en bon français un retour de bâton. Comme si l'on vivait un reflux 10 ans après l'accord de Paris sur le climat, symbole d'une époque qui avait su placer les enjeux écologiques parmi les priorités, dans les mots mais aussi dans les actes. Dans la foulée, l'Union européenne avait adopté le Pacte vert, un ensemble de texte pour resserrer, pour muscler la législation autour des objectifs de climat et de biodiversité.
Mais ça, donc, c'était avant.
Ces dernières semaines, à Bruxelles, les textes s'enchaînent pour amoindrir les avancées du pacte vert. Le tout sous les yeux gourmands d'industriels qui sentent le vent tourner. Le groupe automobile Stellantis, par exemple, vient de reculer sur son objectif du 100% voiture électrique en 2030, selon le journal Les Échos, au grand dam des ONG. Il y a 4 ans, remarque Alexis Chaillou, Ledoux du réseau Action Climat. La décarbonation était centrale dans les discours industriels, mais aujourd'hui, dit-il, ce n'est plus à la mode.
Alors l'écologie plus à la mode, comment on l'explique ?
Il y a plusieurs facteurs. Le plus évident, le plus visible, c'est bien sûr l'effet Trump. D'abord parce qu'il a sciemment saboté la collaboration internationale. En sortant de l'accord de Paris, le président américain a porté un coup sévère au multilatéralisme, c'est-à-dire au fait de travailler ensemble sur le climat, avec l'idée que vous faites des efforts parce que les autres vont en faire aussi. Le deuxième effet Trump, c'est qu'il a normalisé le déni écologique en brandissant comme slogan « Drill, baby, drill », encouragement au nouveau forage pétrolier. Le président américain scande à la face du monde que le réchauffement n'est pas un problème. Ce faisant, il ouvre la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'il décomplexe les mots des climato-sceptiques et plus largement de tous ceux qui estiment que l'écologie, ça commence à bien faire. Prenez Doug Ford, le dirigeant de la province de l'Ontario au Canada. Il assume le projet de détruire des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables. Le motif, selon lui, ces pistes paralysent la circulation automobile. Circuler, mais pas en vélo, il n'y a rien à voir.
Mais le Trumpisme, Frédéric, n'est pas le seul en cause.
Non, il y a un an, les élections européennes ont façonné un nouveau Parlement plus à droite, plus sceptique sur les normes environnementales. Voilà pourquoi à Bruxelles, ces normes sont rabotées à grands coups de lois dites de simplification. Même phénomène au niveau national. On en parlait du gouvernement suédois conservateur soutenu par l'extrême droite. Au pouvoir depuis 3 ans, il a aussi supprimé les primes au covoiturage, aux éoliennes en mer et aux voitures électriques. La Suède, qui fut pourtant il y a 34 ans le premier pays au monde à instaurer une taxe carbone. Comment dit-on backlash en suédois ?
Merci beaucoup Frédéric Saïs. On se retrouve demain, le mardi. Caroline Gilet frappe aux portes de l'Europe. Et qui est là ?
France Inter. Le 18-20.
Caroline, c'est le dernier portrait de la saison,
oui.
Dites-moi. Donc on a eu l'homme qui téléguidait des satellites, celui qui travaille dans un bunker, celui qui gère les relations avec la Tchéquie ou celui qui réfléchit à la reconstruction de l'Ukraine. À qui le tour ?
Écoutez, encore une personne atypique, comme aujourd'hui il fait 14 degrés de trop pour un 1er juillet, que ça peut créer des angoisses. Voilà Michèle Labeu, elle est géologue et jusqu'en mars dernier, elle était en charge de la prospective dans l'une des directions générales de la Commission. Mais elle a décidé de prendre une année sabbatique pour se former et devenir guide naturaliste à Bruxelles.
Et pour ça, vous avez mis des chaussettes fleuries. Et c'est vrai, le pire.
Oui, bien sûr, absolument. J'avais rendez-vous avec Michel dans le parc Léopold, très fleuri, derrière les institutions. Et vous allez l'entendre en oiseau. Elle a déjà un certain niveau.
Tout à l'heure, je voyais un grimpeau des arbres là, qui grimpait cet arbre-là. C'est un oiseau avec un bec très pointu, en fait, qui va chercher les petits insectes dans les écorces.
Si on remonte, ses premiers boulots, c'était dans la banque, puis elle a décidé de rejoindre la Commission européenne en 2004.
J'ai entendu 3 espèces de mésanges depuis que je suis ici, la charbonnière, la bleue et puis la l'orita longue-queue qui est une cousine.
Il y a aussi une espèce très bruyante qui est les adolescents.
Oui.
Qu'on entend.
Alors les adolescents, ça a toujours des cris bizarres.
Elle a été en poste au Cambodge, en Palestine, en Ouganda, sur les questions de développement durable et de droits humanitaires. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est dépitée par les dernières annonces. Le gouvernement belge va faire 6 millions d'euros de coupes sur le financement climatique et 1,8 sur l'aide humanitaire. Mais elle dit que pour faire face aux mauvaises nouvelles, il y a la prospective.
Quel est le futur qu'on veut voir émerger ? Comment est-ce qu'on arrive jusque-là ? Quelles sont les choses à mettre en place pour que ce futur-là émerge ?
Ces 3 dernières années, Michèle était de retour à Bruxelles, où elle avait donc trouvé un poste, toujours à la Commission, dans la prospective.
En fait, ça part de la réalisation que le monde y change, et il change très vite, et il change plus vite que le temps nécessaire à nos institutions pour s'ajuster, à nos politiques publiques, et même à la vitesse d'absorption de nos cerveaux humains. On se sent un peu comme des pompiers, on a à peine éteint un feu, qu'il y en a un deuxième qui arrive, un troisième, etc. Et donc il y a ce sentiment d'urgence. Et ça veut dire, si je garde la même métaphore du pompier, c'est de dire, d'abord, il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que la maison, elle prenne feu moins vite. Puis aussi d'être préparé à toute une série de risques pour que quand le feu arrive, on soit plus préparé.
Concrètement, dans son travail, il y a 2 axes.
Toutes les institutions publiques, on a tendance à s'organiser par secteur, en silo. Et c'est très difficile d'avoir une vue systémique des choses quand on travaille en silo.
C'est-à-dire de façon cloisonnée, chaque département travaillant de manière isolée, ce qui n'est pas super.
Et puis l'autre chose, c'est cette capacité d'imagination.
Pour cette prochaine séquence, je vous propose des mésanges sur musique futuriste.
Alors le futur, il n'existe pas.
Il est dans nos têtes.
Il est dans nos têtes, exactement. J'ai mon homologue de l'OCDE qui dit ça. Hein. Le futur n'est pas devant vous, le futur est dans votre tête. Je pense qu'il y a de façon générale une crise de l'imagination. Moi, ma génération, on imaginait le futur meilleur que le présent. Et là, on a des générations maintenant qui imaginent le futur pire que le présent. Et donc, cette capacité d'imaginer des futurs meilleurs, elle doit s'exercer. C'est vraiment un exercice et un sport. C'est une pratique.
C'est comme ça que Michèle est aussi devenue autrice de science-fiction.
Si nous, on n'imagine pas le futur, d'autres vont l'imaginer pour nous et que ce ne sera pas forcément celui qu'on veut voir émerger.
Depuis début mai, Michèle est en congé sabbatique. En juin, elle a passé un examen et elle est désormais officiellement guide. Elle organise des safaris urbains, comme elle dit, sur ses sujets préférés. Le méconnu et le mal-aimé, c'est-à-dire les insectes, les lichens et les mousses.
Ce sont les premiers végétaux qui sont sortis de l'eau, il y a très longtemps, qui ont permis en fait la création du sol sur lequel les plantes vont pousser, etc. Et donc toute la vie la vie terrestre en tout cas a pu émerger.
Je n'ai pas trouvé de bruit de mousse végétale pour illustrer, mais j'ai imaginé que si je m'approchais très près, elle devait faire ce bruit-là.
Donc voilà, j'aime bien regarder les mousses et me dire, ah, mais c'est des pionnières, c'est grâce à elles qu'on est là. Enfin, voilà.
Elle organise des visites dans le quartier de la Commission pour tenter de toucher ceux et celles qui travaillent dans les institutions européennes. Les aider, en parlant de biodiversité, à se rappeler que les choses doivent se penser dans un système.
Et ça, ce sont des compétences très importantes quand on s'occupe de politique publique.
Je lui demande quels pourraient être ses conseils pour nous, pour cet été.
Moi, j'ai tendance à recommander la science-fiction non occidentale pour s'enrichir aussi de d'autres visions du futur. Et il y a notamment une autrice que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Vandana Singh, qui est une autrice indienne. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la science-fiction, et ça aussi c'est très proche de la prospective, c'est les uchronies.
L'uchronie, c'est la réécriture de l'histoire, se dire « et si ».
On a un petit club de science-fiction informel avec des collègues. Et j'ai une collègue qui a dit ça de façon très juste en disant « mais quand on lit des récits d'uchronie, on se dit « ah mais il a suffi de ce petit événement pour que l'histoire prenne telle trajectoire au lieu de telle autre ». Et pourtant, on se dit que ce qu'on fait ne va servir à rien. Quand on vit dans un monde qui est aussi incertain, qui peut faire aussi peur, perdre cette capacité de se dire « je peux agir sur le monde », c'est dommageable, en termes d'anxiété, de santé mentale. Donc ça, c'est une compétence qu'il faut retrouver, une conviction qu'il faut retrouver.
Voilà, merci. Voilà.
On a entendu le bruit de la mousse.
Voilà, je ne sais pas si c'était ça que vous aviez en tête.
Moins.
Un peu plus... Je vous laisse avec ces devoirs pour l'été. Et je mets bien sûr les liens sur la page de la chronique pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, l'autrice de science-fiction indienne par exemple. Merci encore à Ryan Sebi et à Romain Couturier pour leur aide cette année.
Et merci à vous, Caroline, allez prendre le frais, vous reviendrez donc fraîche et dispote la saison prochaine. Le